ravis de vous rencontrer pour une nouvelle émission de l'étudiantaine qui vous donne rendez-vous tous les jeudis de semaine paire à 13h. Aujourd'hui avec Shaima, on vous a préparé une émission riche en informations et en positivité bien sûr. Donc n'hésitez pas à écouter l'émission jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il y a également avec nous dans le studio les animateurs de l'émission Génération. Salut, je vous laisse vous présenter.
Eh bien, donc il y a Alex, Max et Fadi.
Salut.
Salut à tous.
Salut, vous allez bien?
Ça va, super.
Nickel.
Yes. Pas du tout.
Ça va.
D'ailleurs, l'émission Génération, elle passe au même horaire que l'étudiant time, sauf qu'elle passe en semaine impair. Donc, est-ce que vous pourrez nous parler un peu de votre émission?
Eh bien, globalement, ce sont des jeunes qui parlent pour les jeunes, à des jeunes. Voilà, on a plein d'associations partenaires. On va parler de crise de logement, on va parler d'addiction. Voilà, on va parler de tout ce qui concerne les jeunes de près ou de loin.
D'ailleurs, à titre d'information, Max et Alex, ils animent également une autre émission. Tous les mardis.
Lourd.
Je vous laisse en parler un peu.
Eh bien, on présente Génération Sport tous les mardis à 20h. Donc, on parle évidemment de sport local et international. On a plusieurs partenaires, l'EAB, l'UFAB, les Yankees d'Angers ou encore la Dalle Angevine. Et donc, voilà, on parle de sport à Angers.
Ok. Bon, merci beaucoup. Et j'espère que nos chers auditeurs, ils vont pas hésiter à écouter vos émissions et vous donner des retours également. Et merci d'être venu à notre émission aujourd'hui.
Merci beaucoup gros coucou à tous les étudiants. Force.
Et maintenant, mesdames et messieurs, avant de commencer notre émission, je laisserai Shaima nous présenter rapidement le sommaire.
Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, Rim va vous présenter sa chronique sur comment être plus heureux. Et ensuite, je vous présenterai mes petits conseils pour mieux s'organiser pour les partiels. Malheureusement, Robin n'est pas présent avec nous aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il nous écoutera.
Ouais, c'est sûr. Alors, oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous ai préparé quelques petites astuces pour apprendre à comment être plus heureux dans la vie. En fait, ça pourrait paraître un peu bizarre ou trop évident comme sujet. C'est pourquoi j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui. En fait, j'y ai pensé suite à une petite discussion que j'ai eue dernièrement avec des collègues sur comment être heureux. Et j'ai remarqué que pas mal d'entre eux, et je leur salue d'ailleurs s'ils m'écoutent, ont évoqué des facteurs externes du genre argent, santé, réussite. Mais personne n'a abordé les facteurs internes, alors qu'ils sont d'ailleurs les plus importants et les plus influençants sur notre bonheur. Alors, pour être un peu plus clair, les facteurs internes, c'est tout ce qui est en rapport avec nos sentiments, avec notre estime de nous et notre perception de nous-mêmes. Parce qu'il faut savoir que la joie ou le bonheur, c'est une décision. Et justement, ce ne sont pas les événements éphémères, les événements courts qui font ou qui vont nous rendre toujours heureux. Alors oui, la réussite, par exemple, ça fait plaisir à tout le monde, mais ça nous rend heureux juste pour quelques moments. Pour une petite période. Et donc le fait de compter uniquement sur ces facteurs pour être heureux, sans travailler sur notre intérieur, fait que l'on devienne comme un interrupteur de courant. C'est-à-dire en ayant passage alterné et permanent entre des hauts et des bas. Par exemple, j'ai eu une bonne note aujourd'hui, je suis content de moi, ou je suis fier de moi, je m'aime, mais demain je redeviens neutre ou triste parce que je n'ai rien fait au sens concret du mot, ou parce que je n'ai pas encore atteint mon propre objectif. Et donc, je considère que dans ce cas-là, je n'ai pas de raison pour me sentir bien ou pour m'aimer assez. Et justement, c'est cette instabilité psychologique et cet état psychique oscillatoire qui n'est pas bien et qu'il faudrait éviter ou alléger le plus possible. Mais bien sûr, la principale question, c'est comment ? Tout d'abord, il faut apprécier notre vie telle qu'elle est et profiter même des petits moments de notre quotidien. C'est dommage qu'en général, on ait notre vie passée sans en profiter, en attendant qu'un truc spécial se passe pour qu'on soit heureux. Par exemple, un étudiant passe toute sa vie universitaire à penser à attendre avec impatience le moment où il aura son diplôme. Mais dès qu'il finit ses études, il regrette de ne pas avoir profité assez de sa vie universitaire. Et il se rend compte à quel point cette ambiance était exceptionnelle et pleine de bons moments qu'il n'a peut-être pas suffisamment appréciés ou dont il n'a pas assez profité. Et c'est d'ailleurs un message aux jeunes étudiants qui nous écoutent. La vie universitaire est très exceptionnelle et donc ne la laissez pas passer comme ça. Essayez d'en profiter à fond et de l'apprécier le plus possible. Et c'est pareil, par exemple, pour les gens qui passent leur vie à essayer de gagner de l'argent ou à faire une fortune, mais qui se rendent compte à la fin qu'ils se sont perdus dans ce chemin de recherche de fortune. C'est-à-dire le chemin de travail qui a fait qu'ils ont oublié de vivre entre-temps. Et ça me rappelle une belle citation de la fameuse série Netflix Squid Game, et je suppose que vous la connaissez. Savez-vous ce que quelqu'un qui n'a pas d'argent a en commun avec quelqu'un qui en a trop ? La vie n'est pas drôle pour eux. Et c'est tellement vrai, car à notre station d'arrivée, quand on atteint notre objectif, on trouve qu'on n'est finalement pas aussi content que l'on imaginait. Et vous savez pourquoi ? Parce que le vrai bonheur, c'est dans le processus, dans le chemin que l'on parcourt, avec ses réussites et même avec ses échecs. Et non pas dans la station d'arrivée. Car ce sont ces expériences, échecs, réussites, déviations, changements de trajet, réorientations qui nous donnent un sens et un goût à notre vie. Ensuite, un deuxième point important qu'il faut savoir, c'est que notre bonheur est fortement lié à notre entourage et aux personnes avec qui on passe beaucoup de temps. C'est pourquoi il faut bien choisir sa compagnie. Mais si on se demande qui est la personne avec qui on passe le plus de temps au cours de notre vie, quelle sera ta réponse, Shaima ?
Nous-mêmes.
Exactement. En fait, la réponse la plus vraie, c'est nous-mêmes. Et c'est pourquoi si on ne s'aime pas assez, si on n'aime pas la personne que nous sommes, on ne sera sûrement pas heureux. Et c'est ce qui est arrivé en période de confinement d'ailleurs. Shaima, tu sais pourquoi un bon nombre de personnes en cette période ont vécu une dépression ?
Je pense qu'ils n'étaient pas assez habitués à se côtoyer eux-mêmes sans avoir l'entourage extérieur. Ils n'ont pas assez d'activité. Oui. Peut-être qu'ils s'apprécient pas vraiment, ils apprécient pas leur propre compagnie.
Oui, exactement, c'est exactement ça. C'est qu'en général, la plupart des gens se sont trouvés obligés à passer plus de temps avec eux-mêmes. Alors oui, ça pourrait paraître bizarre, mais il faut savoir que l'ennui, c'est en général lié au fait qu'on s'aime pas assez et qu'on ne supporte pas passer beaucoup de temps avec nous-mêmes. C'est pourquoi plus on va améliorer notre estime de nous et on va s'accepter, plus on va apprécier et aimer le temps que l'on passe avec nous-mêmes. Et donc, on va s'ennuyer moins et on aura moins peur de rester tout seul. Et on aura moins peur également de nous confronter à nous-mêmes, ce qui va nous rendre sûrement plus heureux. Vous l'aurez compris, il est primordial d'améliorer son estime de soi. Pour ce faire, n'hésitez pas à écouter en podcast notre épisode 3 où on vous a proposé des astuces pour améliorer votre confiance en vous. En plus, il est également recommandé de consulter des professionnels en coaching de vie si vous avez de grands problèmes de confiance en vous. Ils vous aideront sûrement, sans vous juger bien sûr, à accepter vos imperfections et à avoir plus confiance en vous. Et finalement, n'oubliez toujours pas, chers auditeurs, que le bonheur vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Donc essayez de vous aimer et de travailler pour être la meilleure version de vous-même et pas pour plaire aux autres. Maintenant, on vous laissera avec une petite pause musicale, c'est Dynamite de BTS. Et on reviendra après pour que Shaima nous parle de comment s'organiser pour réussir ses partiels. In the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach shade like money. Let's go.
Vous êtes toujours sur Radio G au 101.5 FM. Vous pouvez aussi retrouver notre podcast sur www.radio-g.fr et depuis peu, nous sommes aussi sur Spotify. Vous avez juste à rechercher Étudiant Time sur Spotify et vous verrez toutes nos émissions depuis peu. À présent, je vais vous parler de comment mieux réussir et s'organiser pour ses partiels et ses examens. Je sais que c'est pas le sujet le plus heureux du monde, mais ça peut être très utile et ça peut vous permettre de mieux gérer vos révisions et aussi de mieux vous gérer face aux partiels. Tout d'abord, je pense que le plus important, c'est vraiment d'être assidu dans un premier lieu, dans sa prise de notes de cours. Même si c'est compliqué à faire et que 99% du temps, personne n'a la motivation ni l'emploi du temps adapté pour s'organiser dans ses cours dès le début du semestre. Mais ça aide énormément de toujours être à jour dans ses cours. Ça peut vous permettre d'économiser du temps sur vos révisions plus tard, au lieu d'en perdre à devoir tout rattraper. Idéalement, ce serait parfait si vous réussissez aussi à ficher vos cours au fur et à mesure, même si ça, selon moi, c'est pas forcément essentiel dès le début. Donc, une fois que vous avez tous vos cours au propre et organisés, ou une fois que vous avez réussi à tout rattraper à la dernière minute, la première étape, c'est de se calmer. Car même si certaines personnes pensent que travailler sous pression fonctionne, c'est pas complètement vrai. C'est surtout très dangereux car c'est quitte ou double et ça engendre du stress et de l'anxiété selon que vous y soyez plus ou moins sensible. Donc pour lutter contre ce stress, il est important d'apprendre à se détendre, à prendre du temps pour soi, mais aussi de pas culpabiliser de pas avoir travaillé ou de pas avoir assez travaillé depuis le début de l'année et juste se concentrer sur son objectif tout en gardant un mode de vie sain. C'est pour ça que les révisions de dernière minute ne sont pas quelque chose de sain pour notre morale, parce qu'il est quasiment impossible de maintenir une vie saine en période de révision intense de dernière minute. Donc il suffit juste de rester calme et prendre du recul sur la situation pour ne pas tout dramatiser. Ensuite, ce que je peux vous conseiller pour rendre vos révisions plus efficaces, c'est de connaître votre méthode de travail, mais aussi votre type de mémoire. Il existe 3 types de mémoire d'apprentissage, la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique. Par exemple, quand vous avez une mémoire plus ou moins visuelle, vous avez tendance à mieux retenir des choses que vous voyez. Une mémoire auditive, ça veut dire que répéter son cours comme une histoire ou même le raconter à quelqu'un, ça vous permet de mieux l'assimiler. Ou encore la mémoire kinesthésique, c'est par exemple quand on a besoin de bouger, d'utiliser des objets lors de nos révisions pour que notre corps fasse le lien avec des événements, notre cours avec des événements.
Et je pense que la plupart des gens, ils ont une mémoire mixte entre deux types ou un truc comme ça.
Ouais, la plupart du temps, on n'a pas forcément qu'un type de mémoire. C'est mon cas, par exemple, j'ai une mémoire auditive et visuelle. Mais c'est déjà bien d'en connaître un, puis après de commencer à connaître les autres. Par exemple, est-ce que tu connais ton type de mémoire?
Moi, je pense que elle est plutôt visuelle, ma mémoire, parce que à chaque fois que j'essaie de me rappeler de ce que j'ai retenu, j'imagine la page avec mon écriture et tout, et auditive, parce que ça m'arrive de me rappeler de la voix du prof, par exemple, à un certain moment.
Et en fait, il faut jouer sur ça, parce que connaître son type de mémoire, c'est vraiment un atout, et encore plus pour les révisions, parce que tu peux former des groupes avec tes camarades, et vous pouvez vous entraider en groupe de 2 ou 3. Quand par exemple vous réunir dans une salle avec un tableau et selon vos types de mémoire, noter toutes les connaissances, faire des schémas sur le tableau, se raconter le cours ou même s'entraîner à plusieurs avec des flashcards. Comme ça, ça permet à tous les types de mémoire d'apprendre tout en s'entraidant. Mais ça peut être plus efficace que des révisions seules parce que quand on a une mémoire auditive, bon, on peut se parler à soi-même, mais c'est toujours plus intéressant de parler à quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions sur votre type de mémoire, à faire des tests sur internet ou même prendre du recul sur comment vous réviser d'habitude, ce qui marche le mieux, pour ensuite être plus productif. Et pour finir, les points essentiels pour bien gérer les partiels, c'est l'organisation. Une bonne organisation permet d'éviter tout stress inutile et d'avoir toujours un plan de route sur ce qu'on veut faire et où on veut aller et comment on veut le faire. Tout d'abord, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment les to-do list. Ça permet de visualiser les tâches qu'on a à faire et pourquoi on doit les faire. Et la première étape, c'est de décrire toutes les tâches qu'on a à faire d'un coup. Vous pouvez les écrire sur internet, sur du papier, même si c'est mieux de faire sur un support que vous allez garder.
Et j'ai une petite remarque par rapport à la to-do list, parce que la plupart des étudiants, même s'ils font une to-do list, en général, il n'est pas efficace, parce qu'ils mettent des plans qui ne sont pas très réalistes. Par exemple, ils mettent plein d'objectifs pour une journée, et finalement ils finissent par ne pas réaliser les objectifs et par avoir la flemme de continuer après.
Ouais, bah justement en fait, ce que j'allais dire c'est que ensuite quand vous avez fait toutes vos tâches, il faut les diviser. Par exemple, si vous avez un chapitre à réviser ou un gros partiel à venir, il faut diviser par chapitre par exemple sur chaque petite tâche. Et juste de diviser, ça permet de pas avoir trop de tâches à faire d'un coup et que ce soit pas insurmontable en fait. Et ensuite, les petites tâches, vous les placez dans votre emploi du temps de manière raisonnable selon le temps libre que vous avez durant la semaine. Et vous placez plus ou moins des tâches à effectuer par jour. Mais donc, les petites tâches, donc c'est des choses qu'on sait que c'est réalisable selon le temps qu'on a devant nous. Et l'avantage de la to-do list, c'est que ça permet de visualiser les tâches, mais aussi de visualiser son avancée. Et personnellement, ça m'apporte beaucoup de satisfaction de rayer ou de cocher les tâches que j'ai déjà faites, parce qu'on se rend compte qu'on fait pas rien du coup. Et c'est aussi pas mal avec les to-do list, c'est qu'on n'a pas vraiment le moral ou qu'on se sent pas d'humeur à réviser. On a juste à choisir une seule tâche au moins de notre to-do list, celle qui nous le fait le plus envie ou celle qui est la moins compliquée. Et comme ça, ça nous donne toujours l'impression d'avoir fait quelque chose de productif. Et même si on avance lentement, tant qu'on avance, c'est le principal. Et donc voilà pour mes conseils pour mieux gérer ses partiels. Même s'il n'y a pas de recette miracle hein, et que le travail reste toujours la solution. Mais ça permet au moins de partir du bon pied et de partir, de bien partir. Je tiens aussi à vous rappeler que, bien sûr, les notes, ça reste quelque chose de subjectif. Elles définissent pas du tout qui vous êtes, ni votre valeur, mais encore moins votre intelligence. Pour la plupart d'entre nous, on est encore jeunes, et qu'on soit jeune ou pas, en fait, la vie est encore très longue. Et un échec, c'est jamais un échec, en fait. Vous aurez toujours quelque chose à apprendre et à en tirer. Et avec du recul, ou même des années en plus, vous vous rendrez compte qu'avoir des mauvaises notes, rater son examen, c'est vraiment pas la fin du monde. Donc voilà, c'est tout pour moi, et à dans 2 semaines, et prenez soin de vous.
Merci beaucoup Shaima. Il y a plein d'astuces que je pense qui seront utiles pour les étudiants qui nous écoutent, et pour moi également, j'essaierai d'appliquer tes conseils, qui sont déjà des astuces pour être plus heureux en tant qu'étudiant. Et donc maintenant, mesdames et messieurs, on va passer à la partie la plus funny de l'émission d'aujourd'hui. On va faire, Shaima et moi, un petit jeu de questions, questions existentielles d'ailleurs, et nous vous invitons aussi à jouer avec nous. Les règles du jeu sont les suivantes. On va poser chacune une question à tour de rôle. Il faudrait y répondre en 5 secondes maximum. Donc 5 secondes, c'est au sens figuré, c'est-à-dire il faut répondre rapidement. Donc je tiens à vous informer d'ailleurs qu'aucune de nous ne connaît les questions de l'autre pour que nos réponses soient spontanées au maximum. Donc c'est parti, Shaima. Donc tu commences.
Vas-y. Alors, un rapport avec ta chronique que tu as fait. C'est quoi le bonheur selon toi ?
Ah, c'est une question très générale. En fait, comme on avait dit tout à l'heure, je pense le bonheur c'est un truc de très relatif. Et je dirais c'est un mélange de plusieurs choses. Mais personnellement, j'essaie que mon bonheur ne soit pas vraiment lié à un événement en particulier. J'essaie d'être heureuse tous les jours, d'essayer de me booster, de me créer une énergie positive en me réveillant le matin par exemple. Et surtout pour moi, le bonheur, c'est que j'ai chaque jour un objectif et que j'ai quelque chose à faire de ma vie. Je pense que c'est, comme on avait dit tout à l'heure, c'est le processus de réussite qui fait qu'on est content et qu'on sent que notre vie a un goût et un charme. Et toi, Shaima ?
Moi, le bonheur, je pense que c'est un peu de tout. C'est le quotidien, c'est toutes les petites choses qu'on voit dans la rue. C'est vraiment subjectif. C'est pas forcément un but, mais comme t'as dit, c'est le processus. Parce que je me verrais pas si j'atteins mon but, j'aurais plus vraiment de but. Donc, ouais, on n'aura plus vraiment
exactement
de raison pourquoi travailler. Donc je pense que c'est plus ça, d'avoir des petites satisfactions au quotidien parce qu'on avance et on sait que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose et qu'on est fier de nous en fait, juste être content de soi-même et être heureux avec soi-même.
Oui, et t'as dit une chose très importante, c'est les petits détails de la vie qui créent la joie. Pour ma question, c'est quoi la chose sans laquelle ta journée se passe mal ? Ou, pour être positif, c'est quoi la chose qui crée ta journée ? Qui, quand elle se passe, t'es vraiment contente ? T'as de l'énergie positive ?
Moi, je pense que j'aime beaucoup aider les autres. Et quand je vois les autres heureux, Par exemple, si je rends service à quelqu'un, quand je rends quelqu'un heureux, même juste, tu sais, les personnes âgées dans le bus, quand tu leur laisses la place, qu'elles sont contentes, ou même, je sais pas, des fois, ou les enfants, j'aime bien aussi les petits-enfants, quand ils sont mignons, qui te disent des trucs mignons ou qui te font coucou. Ça me rend vraiment heureuse. C'est des petits détails, même le quotidien, juste quand il fait beau, quand le ciel il est beau, quand les arbres, enfin, je m'émerveille devant trop de choses. Mais ouais.
En fait, t'as abordé un truc très important. Il y avait une recherche qui a été réalisée par l'université de Harvard, qui est une université très connue, qui enseigne d'ailleurs la psychologie. Ils ont fait une recherche, ils ont trouvé que les gens les plus heureux de la vie, ce sont les gens qui donnent, les gens généreux. Donc voilà, donc un peu notre joie, ça vient de voir ou d'être une raison de la joie des autres.
Bah, en même temps, oui, c'est ça en fait, parce que ça permet de visualiser ce qu'on donne et de voir que ça a un effet sur l'autre personne. Par exemple, faire un métier où t'as pas de vision directe sur ton résultat, ce que tu fais, et je pense que ça apporte moins de satisfaction que de voir en direct que ce que tu fais t'as une raison en fait de faire ce que tu fais.
Oui, je suis vraiment d'accord. Je pense qu'on est tous des influenceurs et des influencés dans la vie. Qu'on n'est pas obligé d'avoir un compte Instagram pour être influenceur.
Et donc, toi, qu'est-ce qui ferait que ta journée, comme tu as dit du côté positif, qu'est-ce qui rend ta journée plus positive, plus heureuse?
Alors, honnêtement, une tasse de café.
C'est facile, hein?
Oui, ça pourrait être banal ou paraître banal, mais ça me fait tellement plaisir. Par exemple, aujourd'hui, j'étais trop fatiguée, je n'ai dormi que 3 heures, mais avec une tasse de café, je sens que j'ai tellement d'énergie. Donc c'est un petit truc qui me rend heureuse. Et je pense que c'est bien qu'on essaie tous de se trouver des petites habitudes qui peuvent refaire notre journée.
C'est pas très sain pour la santé, mais tant que ça te rend heureuse, hein.
Ça va, une petite dose par jour, ça pourrait passer.
Alors moi j'ai une autre petite question. Si t'avais un choix illimité de métier, quel métier choisirais-tu pour qu'il t'apporte le plus de bonheur?
Je pense que je choisirais ma formation, enfin le métier qui est en rapport avec ma formation, du coup l'ingénierie, parce que je pense qu'on devrait vraiment choisir un métier qui d'abord nous fait nous plaisir. Donc au passé, j'étais trop fan, ou j'ai toujours voulu être médecin, parce que pour moi c'était très intéressant, c'était un métier noble, on aide les gens, et ça c'est bien. Mais tout d'abord il faut penser à la chose qui nous fait plaisir, nous d'abord, parce que si on n'est pas content, on ne pourrait pas rendre les autres contents et on ne pourrait pas leur rendre service. Et toi, Shaïma?
Je pense un écrivain, parce que déjà j'aime beaucoup les livres et je pense que tu travailles pour quelque chose qui à la fin est physique et qui rend les gens heureux en fait, qui aide les gens à s'évader. Donc je pense que c'est bien, puis j'aime bien tout l'univers autour de l'écriture, de la lecture, même ça n'a rien à voir avec ma formation actuelle, mais ce serait en fait un métier de rêve entre guillemets depuis que je suis petite.
Ok, j'ai une petite question, c'est quoi ton animal préféré et pourquoi? Et c'est quoi ta couleur préférée et pourquoi?
J'aime bien les pandas.
Ok.
Parce que c'est mignon. Okay. Je sais pas quoi dire de plus. En vrai, c'est une espèce rare, donc je trouve que ça les rend uniques. Et puis, c'est un peu, vu que c'est un peu bouboule, c'est un peu bête, c'est un peu mignon.
Mais par exemple, est-ce que ça te symbolise un truc en particulier? Genre par exemple, pour toi.
Ils sont chill. La paresse. Non, en vrai, ça symbolise pas grand-chose. J'ai pas vraiment de délire avec les animaux, un animal totem, des choses comme ça. C'est comme les couleurs. J'avoue que j'ai pas vraiment le rouge. J'aime bien le rouge parce que c'est beau. C'est censé symboliser l'amour, mais moi je trouve ça juste beau.
Ok, mais ça te symbolise pas quelque chose, le rouge en particulier? Ça t'inspire pas un truc? Parce qu'en fait, c'est une analyse psychologique, tu vois, genre un test de personnalité, donc j'aimerais vraiment. Enfin, un petit test psychologique, donc j'aimerais vraiment que tu me dises qu'est-ce que ça te symbolise.
La passion, l'amour, le jaune, j'aime bien, ça, c'est la joie.
Ok.
Alors, et toi?
Tout d'abord, avant que je te dise pour moi, je t'explique pourquoi à chaque fois je te demandais pourquoi. En fait, en gros, quand tu décris ta couleur préférée, c'est que tu décris l'image que tu as sur toi-même. Alors là, c'est c'est un petit test psychologique. Je sais pas à quel point hein, le jaune ça te décrit ou le rouge, mais normalement c'est comme ça. Donc par exemple, si tu dis la joie, c'est que voilà, t'es quelqu'un de joyeux qui.
Après, en même temps, les personnes pour qui sa couleur préférée c'est le noir, ils vont pas dire la tristesse.
Par exemple, pour le noir, justement, moi je suis fan du noir. Et pour moi, le noir, c'est le côté obscur de la personnalité de chacun, le côté discret. Et par exemple, pour moi, j'aime bien garder ma vie personnelle ou une bonne partie de ma vie personnelle privée et discrète. Donc je me suis dit, peut-être ça me décrit plus ou moins. En ce qui concerne l'animal préféré, ça décrit en général l'entourage ou comment t'aimerais que ton entourage soit en réalité. Donc peut-être
le panda,
le chill. Donc je sais pas si ça correspond à ce que tu cherches, mais peut-être t'aimes bien les personnes qui voilà sont pas trop exigeantes. Et t'as raison si c'est le cas.
Oui, pas prise de tête, on va dire.
C'est ça.
Et du coup, pour la dernière question, est-ce que tu penses que l'échec c'est pire que le fait de ne pas avoir essayé, ne pas avoir tenté en fait?
Alors là, pas du tout. Pour moi, l'échec, c'est un élément principal de la réussite. Donc ça fait partie justement du processus de réussite. Et c'est des expériences de vie qu'on devrait d'ailleurs pas regretter, parce que c'est elles qui nous motivent, ce sont elles qui nous motivent et qui nous aident à progresser. Donc la personne qui n'a jamais échoué, comme on dit, celui qui tente rien n'a rien, une personne qui n'a jamais échoué, elle va forcément pas sortir de sa zone de confort dont on a parlé la dernière fois, et donc c'est pas une personne qui va réussir dans sa vie, je pense. Et toi, t'en penses quoi?
Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai la même pensée que toi. Je préfère sortir de ma zone de confort, essayer, et au pire, si ça fonctionne pas, on en ressort toujours plus mature. En fait, comme on a parlé aussi dans les dernières émissions, la réorientation, ça peut paraître un échec pour certains, mais pourtant ça apporte beaucoup en termes de maturité, en termes d'expérience de vie. Donc je pense qu'il vaut mieux toujours tenter, bon, à part les trucs super dangereux, peut-être que non, mais toujours tenter quand on a des projets, quand on veut essayer, et puis on en ressortira toujours grandi.
Ouais, c'est vrai. Essayer, mais sans être impulsif.
C'est ça. Et pas sauter, je sais pas, du pont, non.
Du coup, merci beaucoup, Shaima. Et merci à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés. Ça a été un grand plaisir de jouer ce petit jeu. J'espère que vous avez essayé de jouer avec nous aussi. Et on se revoit jeudi dans 2 semaines, à 13h bien sûr. N'hésitez pas à écouter l'épisode sur Spotify si vous l'avez raté, ou sur le site internet de la radio, radio-g.fr. Et à très bientôt.
Radio G 101.5 FM.